Deuxième étape. S'ouvrir à la grâce de pardonner.
Le vide intérieur que tu as créé en renonçant à être l'unique auteur de ton pardon te dispose à accueillir l'amour divin. Tu te prépares à pardonner avec l'aide divine. Il se peut que même après avoir demandé le secours divin, tu te sentes encore hésitant ou impuissant à pardonner. Comment expliquer ce blocage? Peut-être provient-il des fausses images de Dieu qui te cachent son vrai visage d'amour et de compassion.
Du Dieu justicier au vrai Dieu.
Confesser en théorie que Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde est une chose assez facile. En arriver à vivre cela effectivement ne l'est pas du tout. Ducos, 1986. Il n'est pas facile, en effet, de discerner le Dieu justicier de son imaginaire religieux d'avec le Dieu d'amour et de miséricorde. Pourtant, au moment de pardonner, ce discernement s'impose. On ne réussira jamais à pardonner vraiment si on n'est pas d'abord entré en relation avec le vrai Dieu. Dans ma pratique clinique, j'ai souvent l'occasion d'amener mes patients à distinguer le Dieu justicier du Dieu d'amour. L'histoire suivante d'une de mes patientes pourra éclairer mes propos. Après la mort de sa mère, cette religieuse resta hantée par l'idée que la punition de Dieu venait de s'abattre sur elle. Elle se trouvait à la fois bouleversée et humiliée d'être la victime d'une telle obsession. Professeure de catéchèse, elle enseignait à ses étudiants un Dieu d'amour et de miséricorde. Oh, voici qu'intérieurement, elle était poursuivie par un Dieu tracassé et vengeur, tout cela pour n'être pas une bonne religieuse. Au départ, le travail de thérapie porta en priorité sur le deuil de sa mère. Une fois le travail bien amorcé, je trouvais un moment propice pour évoquer sa conception du Dieu vengeur et la crise de culpabilité qui en était résultée. Ma patiente se montra plutôt agacée par ce rappel. Mais en dépit de ses réticences, je m'aventurai à lui demander si l'accès de la culpabilité qu'elle éprouvait était une réaction isolée ou s'il s'agissait d'une tendance habituelle. Après m'avoir fait savoir que j'accordais beaucoup trop d'importance à un événement aussi anodin, elle m'avoua que dans des circonstances angoissantes, la pensée d'un Dieu punisseur venait l'obséder. Elle s'en était ouverte à ses accompagnateurs spirituels, mais ceux-ci lui avaient conseillé de méditer sur la bonté de Dieu et de cesser de se sentir coupable. Conseils qui s'avérèrent inefficaces. Il me paraissait urgent que ma patiente se libérât une fois pour toutes d'une image aussi aberrante de Dieu, tout à fait incompatible avec sa vie de prière et son travail de catéchète. Ce dont elle était d'ailleurs consciente. Aussi me pria-t-elle de l'aider à éliminer de sa vie ce Dieu punisseur. Je savais bien que non seulement on ne peut se débarrasser d'un complexe psychologique aussi grave, mais qu'on ne doit pas même chercher à le faire. Ma patiente devait apprendre à l'apprivoiser et à vivre avec lui. C'est pourquoi je lui demandai de commencer par dialoguer avec lui. C'est ce qu'elle fit au cours d'une retraite. À sa grande surprise, derrière cette étrange image de la divinité, elle reconnut celle de sa mère. Celle-ci lui avait inculqué depuis son jeune âge une crainte maladive de Dieu. Elle lui avait souvent parlé de parents et d'amis qui avaient été punis par Dieu pour lui avoir désobéi. Cette découverte toute libératrice qu'elle fut l'attrista beaucoup. Car en même temps, elle se rendait compte qu'une grande partie de sa vie avait été dominée par l'image de ce Dieu sévère et menaçant. Les jours suivants, elle poursuivit son dialogue avec son Dieu, juge et punisseur. Elle lui demanda de céder peu à peu la place au Dieu d'amour de Jésus-Christ et de ne plus s'interposer entre elle et lui, surtout dans les moments de crise. De plus, elle l'assura qu'elle appréciait son intention positive de vouloir faire d'elle une personne à la conduite morale impeccable. L'histoire démontre l'importance d'examiner attentivement sa conception de Dieu, de la corriger au besoin si l'on veut se découvrir digne de pardon et devenir soi-même capable de pardonner. On ne peut pas toujours en rester à des images infantiles de Dieu, celles d'un juge impitoyable, d'un parent janséniste, d'un policier, d'un professeur perfectionniste, d'un être impassible, d'un personnage doucereux, d'un moralisateur timoré, etc. Ces dieux-là rendent leurs adeptes incapables d'accorder le pardon.
Dans son amour, Dieu n'est pas limité par nos pauvres pardons.
Mais ce ne sont pas là les seules fausses images de Dieu qui se mettent en travers du pardon. Il y a encore celle d'un Dieu dont le pardon serait conditionné par les pardons humains. Dieu ne me pardonnerait qu'à la condition que j'ai pardonné à autrui. Cette façon de penser le pardon est fort répandue. Je l'ai rencontrée chez la plupart des participants à mes ateliers sur le pardon. Ils croient pouvoir la justifier en invoquant les paroles du Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment expliquer que les chrétiens en soient arrivés à une telle conception du pardon divin? N'y aurait-il pas lieu de penser qu'une certaine tradition chrétienne aurait perdu le message premier de l'Évangile? Du concept du pardon gratuit de Dieu, on aurait peu à peu glissé vers celui d'un pardon récompense à ses propres pardons. Dieu mettrait des limites à son amour et cesserait de prendre l'initiative du pardon pour se mettre à la remorque des pauvres pardons humains? La condition du pardon de Dieu, vue comme une sorte de justice rétributive, est soutenue et l'on en trouve des traces dans l'Évangile de Matthieu où il est écrit « En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Matthieu 6. Certains exégètes expliquent cette orientation chez Matthieu par le fait qu'il s'adressait à un auditoire imprégné de la loi de l'Ancien Testament. Même si dans d'autres textes il affirme clairement la gratuité du salut, Matthieu aurait développé une ligne de pensée rabbinique animée par un esprit légaliste. Et c'est cette pensée qui se retrouve dans sa conception du pardon. Ajoutons que l'influence de son évangile a été prépondérante dans la formation de la mentalité chrétienne, puisque jusqu'au Concile Vatican II, on lisait presque exclusivement les textes de Matthieu dans les liturgies dominicales. Il n'est donc pas étonnant que les fidèles en soient venus à penser pouvoir acheter le pardon de Dieu par les mérites de leur propre pardon. Ainsi, le pardon avait pris la forme d'un subtil marchandage entre Dieu et les humains. Comment s'ouvrir au pardon de Dieu? Comment l'imiter? Jean-Marie Poyer répond avec bonheur, « Le Dieu de la Bible nous révèle en même temps qu'il est vulnérable. Il est le père de l'enfant prodigue, ou celui qui part à la recherche de la brebis perdue, et qu'il renonce à nous faire payer. C'est un paradoxe insoutenable pour nous. Aussi, je pense qu'on ne peut imiter le pardon de Dieu que de très loin. Espérer qu'à force de fréquenter Dieu, il finira peut-être par déteindre un peu sur nous. » Poyer, 1977.